Ça y est, c'est le printemps. Saison de tous les possibles, c'est le bon moment pour faire le ménage dans ta vie perso comme dans ta vie pro. Le moment idéal pour dire ciao à ce crush un peu naze, mais aussi pour écouter cette petite voix intérieure qui te murmure tout bas qu'il est temps de retrouver du sens dans ton travail. As-tu déjà entendu parler de Chance ? Chance, c'est une communauté d'entraide professionnelle pour t'aider à raviver la flamme de ta vie pro. Laisse-moi te raconter comment ça marche. Ça commence par un bilan de compétences. En seulement 3 mois, tu vas pouvoir te reconnecter à tes envies, clarifier tes objectifs et définir une voie professionnelle qui te correspond vraiment grâce à l'aide personnalisée d'un coach professionnel. Ensuite, une fois ton projet défini, tu vas passer à l'action grâce à l'aide de la communauté Chance. Elle sera là pour te soutenir et t'ouvrir son réseau, hyper important, pour que tu puisses donner vie à ton nouveau projet. Perso, je trouve ça absolument génial et en plus, c'est pris 100% en charge par le CPF. Alors, crusher de mon cœur, si ce message allume une petite lueur en toi, je te donne rendez-vous sur le site chance.co pour faire le point gratuitement avec un conseiller et n'oublie pas de dire que tu viens de ma part. Si la vie ne vaut d'être vécue sans amour, je crois aussi qu'elle est bien plus belle avec un job aligné avec nos aspirations et crois-moi, je suis très bien placée pour le savoir. C'est pourquoi je suis extrêmement heureuse que Chance soutienne aujourd'hui Crush le podcast. Allez maintenant, place à l'épisode.
Et j'en chialais, hein. Je souffrais énormément de cette situation. J'en pleurais en me disant mais je suis en train de foutre ma vie en l'air et tout. Quand tu te sépares, finalement, tu acceptes aussi que l'autre va se mettre avec quelqu'un d'autre. Et donc moi, j'ai accepté de perdre un ami que j'ai depuis très très longtemps. J'ai accepté de perdre peut-être mon futur mari, tu vois, enfin avec qui je m'étais projetée. Et j'ai accepté aussi le fait que lui se remarie avec quelqu'un, tu vois. Enfin, c'est quand même... En fait, tu sautes un peu dans un avion sans parachute, quoi. Enfin, le risque est quand même gros. Et en même temps, est-ce qu'il en vaut la peine, quoi. What can I say? Today's my day.
Nothing in the world's gonna get in the way. Everything... Je suis MC, la rebelle en tutu, et tu écoutes Crush, le podcast qui explore la magie des premiers jours des histoires d'amour. Tous les mardis, je fais la Rélovution en recevant à mon micro un ou une invitée qui me raconte à cœur ouvert la rencontre qui a un jour bouleversé sa vie. Si tu veux découvrir l'actu et les coulisses du podcast, rendez-vous sur Instagram sur le compte @crush_lepodcast. En 2019, Marine a 21 ans. Elle est en couple depuis 4 ans avec un ami d'enfance. Elle s'apprête à se fiancer. Marine ne croit pas au coup de foudre. Elle pense que le couple se construit avec du recul, du temps et de la volonté. Mais ça, c'était avant de s'asseoir sur un canapé lors d'une soirée inattendue à côté d'un jeune homme qu'elle trouve absolument fascinant. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Crush contre toute attente. Marine, tu m'as contactée par mail pour me raconter ton histoire sur crush.lepodcast@gmail.com. J'étais très touchée par les quelques lignes que tu m'as écrites. Et aujourd'hui, on est en visio et tu vas me raconter l'histoire de la rencontre qui a bouleversé ta vie. Et je crois que pour le coup, elle a bien bouleversé ta vie. Est-ce que dans un premier temps, Marine, s'il te plaît, tu peux te présenter en quelques phrases?
Alors, je m'appelle Marine Beauté. Beauté, c'est mon nom de mariée. Je précise parce qu'on me demande toujours si j'ai ouvert un centre de beauté ou pas. Je suis une femme, une mère, une épouse et je suis mariée avec Vendry, donc je précise W-A-N-D-R-I-Z-E pour ceux qui ne connaissent pas ce prénom. On est mariés depuis bientôt 3 ans, nous avons un petit garçon qui a 15 mois, qui s'appelle Léopold et je suis aussi psychologue de formation, je suis gestionnaire de patrimoine aujourd'hui, j'ai monté mon cabinet de conseil. Et je fais de la psychologie toujours pour une asso bénévolat. Et j'ai écrit un bouquin qui s'appelle « Les composants » pour aider justement les couples à monter des projets de vie ensemble et à se donner les moyens financiers de les réaliser.
Marine, est-ce qu'on peut faire un flashback et retourner au moment où tu vas rencontrer Vendry? Est-ce que tu peux me dire en quelle année on est, quel âge tu as à ce moment-là et à quoi ressemble ta vie?
Je dois avoir 21 ans. Après, 2019, je suis en couple depuis 4 ans avec un homme que je connais depuis mon enfance. C'était le meilleur ami de mon frère, d'ailleurs. Et je rencontre Vendry un peu de manière très spontanée par un un ami en commun. En fait, cet ami en commun me dit, viens, on va manger ensemble. Et je lui dis, bah ok, très bien, on va bouffer. Sauf que à ce moment-là, il pleuvait à fond. Et donc, il me dit, bah viens dans ma coloc, il pleut trop dehors. Je te présenterai aussi les autres colocs. Donc, je débarque à la coloc. Déjà, pour y arriver, il y a un grand escalier et tout. Je me dis, mais dans quoi est-ce que je me trouve? Et en fait, en arrivant, faut savoir que voilà, j'étais vraiment engagée depuis 4 ans. J'allais peut-être me fiancer. Enfin,
t'allais peut-être te fiancer ou tu allais te fiancer?
Alors en fait, on était vraiment dans une démarche où on avançait ensemble pour se marier. Et c'est juste qu'on était très jeunes, donc on n'allait pas. Si on se fiançait, on savait que l'année d'après, on allait se marier. Donc on attendait de finir nos études. Moi, j'étais en master 2 de psy, et donc on s'est dit bon, on attend un peu. Et en fait, on avait un week-end de retraite de fiançailles le 12 et 13 novembre 2019. Et on savait qu'à la suite de ce week-end, le mois d'après, on se fiançait. Et le 30 octobre, donc 13-14 jours avant, j'arrive dans cette coloc et je passe devant Vendry. Je ne savais ni son nom, ni son prénom, rien du tout. Je passe devant lui, il était assis sur son canapé avec une bière dans la main. Et je passe devant lui, je me dis c'est lui. C'est sûr.
Comment ça, tu passes devant lui et tu te dis c'est lui? Qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Je passe devant ce gars, je lui dis bonjour et je m'assois et je me dis c'est lui, c'est lui l'homme de ma vie. Déjà, il faut savoir que mon ancienne relation, du coup, je pense que j'avais vraiment confondu amitié, amour. Il y a des choses aussi qui s'entrecroisent parfois. On s'est mis ensemble quand mon grand-père est décédé, donc il avait pris aussi la place de l'homme, enfin la place peut-être un peu du père oublié, un espèce de pilier qui a été remplacé, enfin. Il y avait pas mal de choses qui allaient pas, et quand on est pendant longtemps dans une relation, il faut beaucoup de courage pour quitter quelqu'un. Je pense que c'est quelque chose de très difficile. Et donc, en août 2019, j'étais partie en Israël, pour te dire, et alors, faut savoir que moi, je suis croyante, et j'avais dit au bon Dieu, mais mec, mets-moi l'homme de ma vie devant moi, parce que je serais incapable de le quitter. Mais je sais que ça va être une espèce de... Enfin, ce gars, il est parfait. Hein. Enfin, mon ex-copain, c'est un gars extraordinaire et je cracherai jamais sur lui. Par contre, il est juste pas fait pour moi. Enfin, et si tu prends les choses de manière très très pratico-pratique, on est complètement différents, on fonctionne de manière très différente aussi, et on n'arrive pas à se retrouver. Tu vois, enfin, quand il y en a un qui dit A, l'autre dit B, et on n'arrive pas à trouver de compromis, tu vois.
Ça veut dire que quelques mois avant, tu étais consciente, en fait, que tu étais en train d'avancer avec ce garçon, mais que ce n'était pas, comme tu dis, l'homme de ta vie.
Ouais, j'en étais complètement consciente, mais en même temps, je voulais tellement pas le blesser que j'étais consciente que j'allais me marier, mais avec un homme qui est juste sur le papier trop bien, mais qui n'est pas fait pour moi. Mais j'avançais quand même, parce que c'est une sorte de sécurité, tu vois, tu te dis, bah en fait, c'est hyper sécure, je le connais depuis longtemps, c'est un gars parfait pour être le père de mes enfants, etc. Et je pense que la femme, moi je crois fondamentalement aux différences homme-femme dans notre biologie, dans notre façon d'être, et je l'ai beaucoup travaillé en psychologie, et je pense que la femme aussi, avec l'ère sociétale aussi, a tendance parfois à s'oublier, peut-être dans un mariage, pour... les enfants, pour l'autre. Et je pense dans tous les cas que ce mariage n'aurait pas fonctionné, tu vois. Parce qu'il y a un moment, tu vois, on parle de la crise de la quarantaine, mais j'aurais peut-être fait ma crise de la trentaine. Un moment, ça aurait pété. Parce que tu peux pas tenir sur la durée si tu t'oublies. Ça marche pas.
Donc toi, t'estimes que dans la relation que t'avais avec lui, en fait, tu t'oubliais un peu. Tu faisais un espèce de sacrifice?
Pas un sacrifice, mais oui, je m'oubliais parce que ça sécurise une relation. Tu vois, et à ce moment-là, j'avais besoin de sécurité. J'avais pas la force de partir dans de l'insécurité affective, tu vois. De la sécurité affective, on en parle souvent. Et aussi par peut-être un espèce de biais de comparaison. Tu te dis, bah, toutes mes amies sont en train de se marier, sont en train d'avancer. Moi, j'ai pas planté une relation qui a 4 ans pour ma connerie de ce mec est parfait, mais il est pas fait pour moi, tu vois. Enfin, c'est complètement dérisoire. Et j'allais lui dire quoi? Bah, en fait, t'es juste parfait, mais juste parce que je sais pas, quoi. Enfin, tu vois. Ça a pas de sens, quoi. Enfin,
t'aurais pu.
Oui, j'aurais pu, mais je pense que j'en avais pas la force. Et en plus, j'aimais énormément ses parents, à ce gars, et que je continue de voir d'ailleurs, que je fascine particulièrement. Et voilà, enfin, il y avait tout un environnement. Quand tu commences à t'engager avec une personne, finalement, tu t'attaches aussi à la famille, tu t'attaches aussi à d'autres facteurs. Donc, faut énormément de courage pour se désancrer de tout ça et de se dire du jour au lendemain, je vais être seule. Et moi, j'en étais pas capable parce que je connais mon fonctionnement. Et donc, je suis partie en Israël. Je te dis, j'ai dormi 3 jours dans le désert. Et j'ai dit au bon Dieu, mais putain, fais un truc là pour moi parce que c'est pas possible, je vais pas y arriver.
Tu lui demandes de mettre l'homme de ta vie sur ton chemin, c'est ça ?
Je lui demande, sachant que moi, je n'ai jamais cru au coup de foudre. Et d'ailleurs, je ne crois toujours pas trop au coup de foudre. C'est assez marrant, mais j'ai toujours su que une relation, ça se bâtissait, que mon ex-copain, on était potes pendant longtemps avant. Enfin, on a passé un an à discerner avant de se mettre ensemble. Enfin, savoir si on allait briser cette relation d'amitié, etc. Et pour moi, un couple, ça fonctionne pas sur un coup de foudre. Ça ne marche pas. Et pourtant, tu vois, je suis rentrée dans cette coloc, je suis arrivée. J'ai vu ce gars, je suis passée et je sais pas, il y avait cette espèce de flamme en moi où je me suis dit, c'est lui, c'est sûr. C'est lui, je veux que ça soit mon mari.
Incroyable, mais est-ce que tu sais dire au-delà de cette révélation, en fait, ce qui, en le voyant, a pu déclencher ça chez toi?
Je pense qu'il faut vraiment apprendre à se connaître. Moi, je suis quelqu'un de très instinctive. Ça peut passer, ça passe ou ça casse généralement. Et en fait, quand je l'ai vu, j'ai vu Vendry et j'ai vu tout de suite que c'était un homme très particulier, très spécial, et que on voit son âme dans ses yeux, quoi. C'est un gars très profond dans sa manière d'être, quoi. Et je pense que c'est ce qui m'a vraiment touchée sur le moment.
Qu'est-ce que ça veut dire que tu voyais? Tu as dit c'était quelqu'un de très particulier. On voit son âme dans ses yeux. Là, quand tu le vois pour la première fois, concrètement. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Qu'est-ce qu'il y a en lui qui te fait dire ça? De très physique ou une aura ou rien de tout ça?
Non, non, je pense que c'est vraiment... En fait, je pense que tu vois son regard. Ah, c'est marrant parce que ma famille, c'est un truc que je leur ai dit dès le début. Et ils m'ont dit, effectivement, il a un regard particulier. Enfin, Vendry, c'est lui, quoi. Il a un regard très profond. Il va te regarder et c'est un homme qui parle pas beaucoup. Il parle très peu, mais par contre, quand il parle, il sait ce qu'il dit. Son oui est un oui, son nom est un vrai nom. Tu vois ce que je veux dire? C'est quelqu'un de très tranchant, de très droit, qui aime pas forcément le conflit. Enfin, et tout ça, ça se reflète dans sa manière d'être. C'est pas un homme hyper extravagant qui va cacher, par exemple, une introversion. Enfin, pour cacher une introversion, tu vois. C'est pas un homme qui est hyper introverti ou à l'inverse pour cacher le fait que, en fait. Que ce soit un clown, tu vois, enfin, pas du tout. Enfin, il transparaît ce qu'il est profondément. Et ça, il y en a très peu dans la société parce qu'on se cache tous derrière quelque chose. C'est un peu nos mécanismes de défense, finalement.
Oui, mais tout de même, tu le vois assis sur un canapé en train de boire une bière. On est d'accord.
Oui. Oui. Après, il y a des choses inexplicables, hein, mais je me suis pas limitée à ça, effectivement.
Est-ce que je peux te demander physiquement, il est comment? Si tu devais le décrire de façon complètement neutre. Tu vois, tu le vois sur un tableau, tu dis cet homme, il est... Et tu dois le décrire à quelqu'un qui ne le voit pas.
Ouais, cet homme, il est grand, il est brun, il a les yeux verts, il est plutôt fin. Enfin, moi, ce qui me marque vraiment, c'est son regard, quoi. C'est un regard hyper transperçant. Quand il te regarde, quelqu'un de très... comme je te dis, quand il a des valeurs... Enfin, il a des valeurs vraiment très fortes de par son éducation. Et tu vois, c'est un homme qui n'avait jamais eu de femme avant moi, tu vois. Il m'avait toujours dit, moi, je voudrais me lancer avec quelqu'un parce que je veux vraiment tout lui donner, quoi. Et ça, je lui avais dit, mais attends, mais t'as jamais même voulu essayer, je sais pas, quelque chose avec quelqu'un et tout. Et il m'a dit, erreur système, tu vois. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, où il va, et il passe pas par quatre chemins. Enfin, c'est juste, la vie, elle est simple, hein. En fait, pour lui, c'est très simple, hein. Je veux une femme qui a des valeurs, je peux avancer avec elle, terminer. Donc, toutes celles qui m'intéressent pas, ça n'a pas de sens, tu vois. Par contre, lui, il a pas eu de coup de foudre pour moi, hein.
Alors attends, on retourne dans ce salon où donc tu le vois assis sur le canapé. Tu t'assois à côté de lui, c'est ça?
Je m'assois, en fait, on est vraiment dans un angle et moi je suis pas à côté de lui, je suis à côté de lui mais dans l'angle, quoi. Du coup, il est à ma gauche, quoi. Et en fait, mon pote qui débarque, enfin qui me dit, bah voilà, je t'ai présenté tout, il me présente tout le monde et il me présente Vendry. Et je dis, Vend quoi? Tout d'un coup, je me dis, ah oui, ok, ce prénom, je ne connais pas. Et après lui, j'en ai rencontré plein, du coup, c'est marrant. Et donc, mon pote me dit, bah, en fait, Marine, désolée, j'ai un appel de mon commandant, parce qu'il est militaire, je dois partir. Donc, il me laisse, il me plante avec les gars de sa coloc. En fait, ils étaient deux à ce moment-là, enfin, plus lui, mais qui part, donc 3 moins 1, donc 2. Et donc, on se met à faire un Kems, je crois, enfin, je sais pas, un jeu de cartes, un truc comme ça. Et Vendry te dira que j'ai triché, mais moi, je te dirais qu'il a triché. Et donc, tout part de là. Donc on commence à jouer au jeu de cartes, etc. C'était sympa. Et en repartant, je lui dis, est-ce que tu peux me raccompagner jusqu'à ma voiture? Parce que ma voiture était un peu plus haut et il était tard le soir, je connaissais pas la rue, enfin ça me faisait un peu peur. Et donc il me raccompagne et je lui dis, bah écoute, demain on fait une énorme soirée chez moi si tu veux, t'es invité, quoi. J'avais rien organisé, il y avait rien de prévu.
Ah, tu inventes.
Ouais, sur le moment, je me suis dit, en fait, je voulais le revoir, quoi, vraiment. Mais pas après-demain.
Ouais, tu voulais trouver une excuse.
Ouais. Et il me dit, bah écoute, pourquoi pas et tout. Et donc là, donc là, je contacte tous mes potes en mode grosse soirée demain à la maison. Je contacte vraiment tout le monde, je remue ciel et terre et tout. Savoir que souvent, je fais ça, on va dire, deux, trois jours plus tard. Et ça se passe plutôt bien. On fait souvent des grosses soirées à la maison et tout. On est assez fêtard devant. Et là, je fais ça et personne, tout le monde me dit non, mais on n'est pas là en fait. Et on se retrouve à quatre.
Ah, la grosse teuf.
Ah, la grosse teuf. Sachant qu'il y avait, il y avait une personne dans les quatre qui parlait tout le temps. Et c'était un peu, enfin, il nous a raconté l'histoire de France, je pense.
Donc, du coup, attends. Tu inventes un gros mytho pour le revoir. Et avant ça, pendant le jeu de cartes, il y a de la séduction entre vous ou pas du tout?
Non, pas du tout. Pas du tout.
Ok. C'est juste fun, on rigole.
Ouais, carrément.
Mais toi, tu sais.
Ah, mais moi, je me dis, c'est lui. Enfin, je sais que je veux me marier avec lui.
Le lendemain, gros mytho, ça marche pas, il y a personne à ta teuf. Il vient, Vendry.
Il vient, en fait, il vient avec cette hot pot qui passe la soirée à parler de l'histoire de France. Je sais pas, il se met un monologue. Il vient avec lui et donc ce mec l'accompagne en voiture. Donc, Vendry n'avait pas de voiture. Et donc, je vois que la soirée commence à... Enfin, je vois que c'est chiant, quoi. Enfin, en fait, on est autour d'un repas à quatre avec un mec qui fait que parler. Et j'ai beau changer les sujets et tout. Mais finalement, ça devient presque rigolo parce que c'est... Et au moment de partir, le gars lui dit « Bon, bah du coup, je te ramène. » Et Vendry me regarde et je lui dis « Non, mais c'est bon. Moi, j'ai deux, trois trucs à dire à Vendry, je le ramène. » Et le gars lui dit « Non, mais c'est bon, tu vas pas te taper un aller-retour. T'en as pour une heure de route. Je le ramène. » Et je lui dis « Non, je le ramène. » Enfin, je m'engage. Je lui dis « Non, c'est bon, je le ramène. » Du coup, c'est la première fois où on se retrouve à deux dans une voiture pendant une demi-heure de route à parler, quoi. Et c'est vrai que je suis assez directe. Et moi, je voulais un peu confirmer ça. Et j'arrivais pas trop à comprendre cette espèce de coup de foudre parce que j'y croyais pas. Et en même temps, c'était bien réel. C'était bien au fond de moi, quoi. Et du coup, je suis un peu directe. Et je lui dis, nos premiers échanges, c'est « Bon, bah du coup, raconte-moi qui tu es. Tu veux combien d'enfants? Tu veux faire quoi dans ta vie ?» Tu vois, enfin... Et je rentre un peu dans le nerf de la guerre directement, quoi. Sachant que moi, en parallèle, j'étais toujours avec mon ex. Enfin, avec mon mec à l'époque, tu vois. Enfin... qui m'envoie des messages, enfin on n'habitait pas ensemble hein, parce que j'étais en coloc, mais qui m'envoie des messages et tout, et je suis complètement ailleurs, quoi. Je me dis mais qu'est-ce que je suis en train de foutre, quoi. Enfin, Vendry me dit bah en fait tu vois, il me raconte sa vie, moi je viens d'une famille nombreuse, je vais avoir quelques enfants, il me raconte un peu de manière très libre, mais par contre ça m'étonne parce que le gars, d'ailleurs il me l'a dit plus tard, il m'a dit moi j'avais rien pour toi, tu vois, et t'avais rien pour moi, mais en attendant tu me racontes quand même toute ta vie, est-ce que t'as jamais fait ça avec n'importe quelle femme, tu vois, enfin. Donc, il avait rien pour moi, mais quand même, il commence un peu à se livrer. Et donc, ça crée une espèce de relation un peu plus intime, quoi.
Et toi, tu vois à ce moment-là, tu décèles qu'il est intéressé ou sensible, plutôt, ou tu sais pas trop?
Moi, je décèle qu'il est un peu plus sensible parce que je me dis, si le gars se livre à moi alors qu'il le fait avec personne d'autre, enfin, il n'y a pas de raison qu'il s'intéresse pas à moi, tu vois. Mais par contre, je remarque que le chemin va être très long parce qu'on est extrêmement différents dans nos familles, dans notre culture, et que je me dis, le gars, il voudra jamais de moi, quoi. Enfin, c'est pas possible.
Elle consiste en quoi, ces différences?
Bah, il vient d'une famille très catholique, famille nombreuse. Tu vois, il a jamais de copine avant. Enfin, moi, je viens d'une famille, mes parents sont sourds, muets, séparés, enfin, donc handicapés. Mes parents sont pas gâteaux. Enfin, j'ai un frère. Et mine de rien, on n'a pas du tout la même éducation. Rentrer dans une famille nombreuse, c'est très particulier, tu vois. Enfin,
faut s'y retrouver. Oui, effectivement, ouais, ça fait beaucoup de différence. Ouais.
Moi, je suis quelqu'un de très, très solitaire, tu vois. J'aime vraiment ma solitude, je suis quelqu'un de très indépendante. Quand je vais dans sa famille, j'adore ses frères et sœurs, vraiment, ils sont extraordinaires, mais faut de l'énergie, quoi.
Ils sont combien?
Ils sont 8. Et du coup, faut de l'énergie, tu vois, ils jouent tous aux jeux de société à fond, et c'est vraiment une dynamique très particulière. Moi, souvent, tu vois, je suis dans ma chambre, et Vendry souvent vient me voir, et en me disant, mais Marine, viens avec nous, et tout. Je dis, mais attends, moi, j'ai passé tout le déj avec vous, j'ai passé 3 heures, et je suis épuisée, quoi. Enfin, j'ai besoin d'être dans ma bulle, quoi.
Et tout ça, quand il te raconte ça, ça te fait pas peur, à ce moment-là, dans la voiture?
Non, parce que je pense que c'est un peu ce que je rêvais. Je rêvais d'être avec un homme qui voulait plein d'enfants, qui s'était gardé pour moi, alors que... Et c'est complètement égoïste, parce que moi, j'ai eu plein de copains avant, tu vois. Enfin, j'allais en rêve party, j'ai fait du mannequinat, enfin, j'étais complètement ailleurs. Enfin, j'ai pas du tout mis la même vie, tu vois. Mais je rêvais d'un homme qui, oui, qui puisse aussi me canaliser, parce que je suis quelqu'un de très spontané et j'ai besoin que parfois on me dise non, Marine, c'est pas comme ça, que ça marche, tu vois. Enfin, quelqu'un d'assez droit.
Marine, tu m'as dit que tes parents étaient sourds-muets, c'est ça?
Ouais, ouais.
Effectivement, pour comprendre ton goût pour la solitude et le calme, est-ce que ça a joué?
Oui, oui, énormément.
Ma question est peut-être complètement con, hein. J'en suis désolée si elle l'est, mais...
Non, non, mais énormément. En fait, tu vois, souvent on me dit, parce que j'ai 25 ans, on me dit, mais comment à 25 ans, tu peux être mère, avoir un enfant, monter ta boîte, avoir déjà un diplôme de psy, etc., avoir écrit un bouquin? Et je leur ai dit, mais enfin, je dis à tout le monde, j'ai peut-être 25 ans physiquement, mais peut-être que dans ma tête, j'en ai 35, je sais pas. Mais parce que, en fait, quand on est enfant entendant de parents sourds, on est extrêmement parentalisé. J'ai toujours pensé à la place de mes parents, j'ai toujours été la mère de ma mère, finalement. Donc, je pense que j'ai grandi peut-être plus vite que la moyenne, mais sans être prétentieuse, hein. Je pense que c'est vraiment la réalité.
Je trouve que c'est intéressant pour comprendre qui tu es et le choc, en fait, et les différences qu'il y a entre toi et... cet homme pour lequel tu n'as pas un coup de foudre, lequel tu as une révélation.
Oui, c'est peut-être un peu ça. Enfin, la solitude, oui, j'ai besoin de solitude parce que papa et maman faisaient beaucoup de bruit. Les sourds ne s'entendent pas et donc ils font du bruit en permanence. Moi, j'ai besoin de calme. Je suis quelqu'un de très, très dynamique. Hein. Au quotidien, je fais mille choses à la fois. J'ai 3 milliards de projets. Ça tourne vraiment très vite. Mais le matin et le soir, typiquement, j'ai vraiment besoin d'être seule. Je me fais des retraites toute seule. Enfin, d'ailleurs, la première année de nos fiançailles avec Vendry, je me suis posé vraiment la question de rentrer au couvent, tu vois. De rentrer cloîtrée, de me dire, bon, ok, j'arrête tout et je pars, quoi.
Retournons à la voiture. Du coup, vous faites ce trajet ensemble. Toi, tes convictions se confirment sur le fait que c'est l'homme que tu attendais, celui que tu attendais. Lui, tu sais pas trop, en fait. Est-ce que toi, tu te livres à ce moment-là sur toi? La révélation que tu as eue, tu lui dis ou pas?
Ah non, je ne dis pas ma révélation, par contre, je lui dis tout. Je lui dis, mec, moi, je vais me fiancer, je vais me marier, je suis depuis 4 ans avec cet homme. Mais on passe de plus en plus de temps ensemble, les soirées elles passent en 5 minutes. On se retrouve à 18h, finalement, on se retrouve à marcher en fait, jusqu'à 2h du matin, tu vois. Et on parle, on fait que parler, quoi. Enfin, et ça passe, j'ai l'impression que ça passe en 10 minutes, quoi.
D'accord. Donc, vous faites plusieurs soirées, enfin, vous commencez à vous connaître? Vous fréquentez et à vous connaître plus. Il y a un événement où tu vas pouvoir lui dire ce que tu ressens ou c'est lui qui va faire le premier pas? Comment ça va se passer?
Non, il y a. Bah, on arrive le 13 novembre. Je vais à la retraite des fiançailles avec un ex-copain. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que je fous là, quoi? Enfin. Oh, et à ce moment-là, je lui dis, il faut qu'on arrête, quoi. C'est pas possible. Non, alors, attends, j'ai oublié une étape. C'est-à-dire qu'une semaine avant, je vais boire un verre avec Vendry. Et dans un bar, et le mardi soir, on avait avec notre groupe une espèce d'aumônerie de jeunes pros, tu vois, de jeunes professionnels. En fait, on se retrouve parfois le mardi soir, on a une espèce de topo, après on se fait des bières pizza ensemble. Et puis je vais boire un verre une heure avant, avec Vendry, et puis à 20h, il y a l'espèce de truc là, de réunion. Et mon ex-copain débarque, parce qu'il habitait en Angleterre à ce moment-là, il débarque à la soirée, et donc il y avait Vendry et ce mec, je dirais pas son prénom, hein, à la même soirée. Et moi. Et je me dis, mais qu'est-ce que je fous là, tu vois, une semaine avant le topo l'espèce de retraite de fiançailles, là. Et je me dis, mais qu'est-ce que tu fous là, enfin. Et il me dit, bah, je te fais une surprise, je viens passer la semaine avec toi, etc. Et je me dis, ah oui, ok. Et donc là, toute la soirée, j'ignore complètement les deux. L'un et l'autre, je fais comme s'ils n'existent pas. Et puis, la semaine d'après, on passe la semaine ensemble avec ces textes copains. Et la semaine d'après, on va au week-end de fiançailles, enfin de retraite de fiançailles. Et là, je me dis, mais en fait, oui, ça confirme vraiment que c'est pas lui, que je veux pas m'engager avec lui, en fait. Je veux pas vivre tout ça, quoi. Et du coup, je lui dis que j'arrête. Il est complètement dévasté. Hein, je vais pas te mentir. Hein, mais attends, ça fait 4 ans qu'on est ensemble. Tu vois, enfin, on a quand même construit pas mal de choses et tout. Je lui dis que j'arrête. Et il me dit, est-ce que c'est pour Vendry? Et je dis, mais attends. Qu'est-ce qui se passe? Tu connais Vendry? Enfin, comment ça se fait? Tout, tu vois, enfin. Et il me dit, mardi soir, j'ai vu comment tu l'avais regardé une fois. Il m'a dit, et je t'ai jamais vu me regarder de cette manière. Cette phrase a été quand même vachement violente. Et en même temps, je pense que, tu vois, il me connaissait par cœur, hein, cet ex-copain. Enfin, on se connaît depuis qu'on est enfant, quoi. Du coup, je pense qu'il s'était pas trop trompé, quoi. Et donc, je lui ai dit, oui, je pense que c'est pour vendre.
Donc là, tu as le courage de le quitter, en fait, ce que tu n'arrivais pas vraiment à faire, mais que tu avais envie de faire.
Mais il faut savoir qu'en parallèle, je priais à fond. Hein. Je disais, oh bon Dieu, mais donne-moi le courage vraiment. Et je disais vraiment, oh bon Dieu, mais tous les jours, c'était un peu ma force de dire, mais. Et j'en chialais. Hein. Je souffrais énormément de cette situation. J'en pleurais en me disant, mais je suis en train de foutre ma vie en l'air et tout. Quand tu te sépares, finalement, tu acceptes aussi que l'autre va se mettre avec quelqu'un d'autre. Et donc, moi, j'ai accepté de perdre un ami que j'ai depuis très, très longtemps. J'ai accepté de perdre peut-être mon futur mari, tu vois, enfin, avec qui je m'étais projetée. Et j'ai accepté aussi le fait que lui se remarie avec quelqu'un, tu vois. Enfin, c'est quand même, tu sautes un peu d'un avion sans parachute, quoi. Enfin, le risque est quand même gros. Et en même temps, est-ce qu'il en vaut, la peine, quoi? J'avais l'impression d'être un peu schizophrène à ce moment-là. Hein. C'était du délire, hein.
C'est un peu le ressenti, comme dans ce genre de situation où on est dans une relation, on rencontre quelqu'un d'autre et qu'il se passe quelque chose ou pas d'ailleurs, hein, mais juste la distorsion mentale, ça rend fou, ouais. La métaphore avec la schizophrénie, je pense que ça rend dingue. Ouais.
Mais c'est que du mental, hein. C'est tout ce qui se passe là. Hein.
Qu'est-ce que tu vas faire après, du coup? Comment tu vas gérer?
Qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire à Vendry que je suis plus avec lui. Et de là, tout le mois de novembre, on a appris à se connaître. On passe beaucoup, beaucoup de temps ensemble. Et ça doit être le 30 novembre, ou je sais pas, un truc comme ça, ou, non. Ah oui, non, le 30 novembre 2019. Ça allait quand même très vite, hein. 3 semaines après, on va boire un verre. Après, on marche. On était au Mourillon, à ce moment-là, parce que moi, je suis toulonnaise de base. Et on marche. Il est 18h, on marche. Et il se trouve que minuit passe, donc on passe au 1er décembre. Je me rappellerai toute ma vie. Et Vendry, au bout d'un moment, se retourne et me dit, Marine, est-ce que je peux t'embrasser? Et là, je me suis dit, putain, le mec, on est dans une société, quand même, faut vous le rappeler, où il y a quand même beaucoup d'hommes qui n'ont aucun respect pour les femmes. Moi, c'est quelque chose qui me marque énormément, en tout cas. Et le gars, il me demande s'il peut m'embrasser. Enfin, on est sur un degré. Le gars, il avait 24 ans à l'époque. Il me demande s'il peut me respecter, en fait. Mais bon, ouf, ce mec, c'est quand même complètement dingue, quoi. Et du coup, je réfléchis 3 secondes et après je me dis, oui. Enfin, en fait, je me suis dit, c'est quand même beaucoup trop tôt parce que putain, je viens de quitter un mec depuis 4 ans, ça fait 3 semaines. Et sur le moment, je me dis, qu'est-ce que vont penser les autres, quoi, les gens. Ça, c'est vraiment une question qui m'a beaucoup trotté en me disant, mais et en même temps, je me dis, oui. Enfin, tu vois, une chose, c'est d'être avec lui, quoi. Donc je lui ai dit oui. Je me rappelle de où c'était, les marches, etc. Je me rappelle de tout. Donc on s'est embrassés, et puis le lendemain, en fait, mon mari est militaire et il partait en mer pour 3 semaines. Enfin, le lendemain, il part en mer et on n'a plus de nouvelles pendant un mois, tu vois. Il part et il revient le 24 décembre. En fait, il est de service à ce moment-là et donc il revient le 24 et donc il peut pas aller faire Noël dans sa famille et donc il vient faire Noël dans la mienne.
T'as aucun contact avec lui pendant ces 3 semaines où il est en mission?
Moi, je me suis dit, quand il va revenir, il m'aura oublié, quoi.
Mais ça a été ces 3 semaines, ça a pas été trop dur?
Ah, c'était l'enfer. C'était horrible, je pense à lui tout le temps, mais tu sais, quand tu dis que les heures deviennent interminables, quoi, enfin, deviennent des semaines, c'est ça, quoi. Non, c'est l'enfer. Quand il rentre, il pose ses affaires et tout, et puis en fait, je me rends compte qu'il m'appelle directement, quoi. Il dit, ouais, je suis rentrée, etc., est-ce qu'on peut se voir? Je dis, oui. Et oui, je compte bien te revoir.
Ah, tiens, t'es déjà rentrée? Ah, c'est déjà la date. La meuf, c'est qui? Mettez des croix sur le mur, tu sais, des bâtons qui comptaient. Tout. Ah oui, t'es déjà là. Oui, si tu veux. Ouais, ouais, j'ai rien de prévu.
Exactement. Le tout, c'est de ne pas montrer que tu attendais le moment avec impatience. Ouais, carrément. Et je me rappelle, par contre, il était épuisé de sa mission. Et le 24 au soir, à minuit, on va à la messe ensemble. C'est la messe de Noël. Moi, j'y vais avec lui et je me rappelle qu'on était à côté. Et qu'il y a tous les copains de l'église là qui font elle et deux là vous êtes à côté, etc., tu vois, enfin. Et je me rappelle que lui, il était tellement fatigué qu'il s'endormait et que sa tête commençait à tomber par terre, et moi j'étais en mode, putain, mais il a honte, quoi, il va pas tomber par terre quand même, tu vois. Je donnais des coups de coude pour lui dire, mais gars, en fait, tu peux pas faire ça devant tout le monde. Mais c'était belle retrouvaille. Et puis après, on s'est reparlé, et je lui ai dit, par contre, je lui ai dit, maintenant, on va poser les choses à plat, parce que moi, je sors de 4 ans de relation, j'ai vraiment envie de me marier, j'ai envie de construire quelque chose, je sais où je vais. Et je lui ai dit, par contre, si je me mets avec toi, je veux que je suis pas allouée, quoi. Je veux que, à la fin d'année, dans 9 mois, on s'engage ensemble ou pas, quoi. Ou on arrête tout.
Et lui, il réagit comment?
Il me dit, ok, très bien.
Ok, donc il est sur la même longueur d'onde que toi.
Oui, je pense que oui, clairement. Mais je voulais un peu une deadline. Bon, lui, il m'a dit, c'est quand même court, 9 mois. Mais il m'a dit, je veux pas qu'on soit l'un et l'autre à louer et qu'on attende indéfiniment, tu vois. Parce que, par contre, on avait les mêmes valeurs dans la mesure où on savait que si on avançait ensemble, on apprendrait à se connaître au-delà du physique, au-delà d'habiter ensemble. Enfin, on n'a jamais habité ensemble avant de se marier, on n'a jamais couché ensemble avant de se marier, etc.
Comment ça s'appelle, ça? Ça a un nom?
C'est l'abstinence. La chasteté, c'est ça.
Tout simplement. Ça m'est tellement étranger, Marine, pour être tout à fait honnête, que je ne sais même pas comment ça s'appelle. Alors, franchement, je vais te le dire en toute honnêteté, je n'ai pas dans mon entourage de couples qui n'ont pas couché ensemble avant de se marier.
C'est fou, hein?
C'est incroyable.
C'est fou. Et moi, j'en connais plein, si tu savais.
Mais oui, je pense que c'est une question de milieu. Mais alors, est-ce que tu peux m'expliquer, peut-être petit aparté, jingle science ou je sais pas quoi. Alors, j'ai deux questions, je crois. Pourquoi l'abstinence avant le mariage? C'est quoi les raisons que vous aviez ou que la religion vous donne? Et ça fait quoi? C'est dur? C'est pas dur? Ça fait peur.
Alors déjà, je tiens vraiment à dire que la religion t'impose rien. C'est-à-dire que je sais pas s'il y a des religions qui t'imposent des règles, etc. Après, nous on est catholiques et t'as un peu les cathos de règles et les cathos de service, entre guillemets, tu vois. T'as les cathos de règles et les cathos de foi, entre guillemets. T'as ceux qui sont dans la règle, il faut faire ça, et c'est comme ça, c'est marqué dans la loi, etc. Puis t'as ceux qui, alors l'un n'empêche pas l'autre, hein, mais qui sont vraiment, c'est un cœur à cœur avec Dieu. Et moi, je pense que je suis plus là-dedans. Mon mari est plus dans la règle, tu vois, de par son éducation. Moi, j'ai vraiment eu une vraie conversion du cœur envers Dieu. Donc j'ai pas ce côté, j'ai pas eu d'aumônerie, j'ai pas eu de catéchisme, tu vois, enfin, j'ai pas ce côté rigoureux, en fait. Par contre, je pense qu'elle te donne des espèces d'orientations, de valeurs. Après, c'est à toi de les choisir ou pas, quoi. Et moi, j'ai toujours dit à mes parents, même si demain je suis plus catholique, je garderai ces valeurs parce qu'elles sont belles et que c'est des choses que j'ai envie de transmettre à mes enfants. Parce que la foi, c'est quelque chose de tellement intangible, quelque chose de tellement personnel que en fait, c'est aussi une histoire d'amour, quoi. Enfin, c'est toi avec Dieu et Dieu avec toi. Donc, au-delà de ça, donc pour revenir à cette chasteté, lui, c'était très clair. Lui m'a toujours dit, moi, je veux apprendre à te connaître autrement, quoi. Je veux vraiment savoir qui tu es, parce que c'est tellement facile dès que t'as un petit conflit de dire ouais, allez, on règle ça sous la couette et terminé, tu vois. Donc on a vraiment appris à se connaître en parlant, en se rencontrant. Après il y a plein de moments où en fait on peut rentrer dans une intimité sans parler de sexe, tu vois. Le fait de se regarder profondément, le fait de, je sais pas, de se tenir la main, de s'embrasser, enfin c'est quand même, on rentre quand même déjà dans une intimité. Et moi je pense que avec toutes ces années où j'ai été blessée par l'homme, où j'avais vraiment besoin de réconcilier ça au fond de moi, de réconcilier mon corps, mon cœur, mon esprit, tu vois, il y avait quelque chose de linéaire qui avait besoin de se raccorder. J'avais besoin de temps, en fait. J'étais pas prête à me redonner à quelqu'un, en fait. Quand on se dit avec Henri, ben, on avance ensemble, par contre, on avance ensemble sans relation sexuelle, ça s'apprend. Donc moi, j'avais toujours eu des relations sexuelles avant. Donc c'est moi je dis vas-y, ok, très bien, enfin moi je fonce, c'est hyper beau ce que tu me proposes à vivre, mais en fait dans la réalité il y a les paroles, il y a les actes, quoi. Enfin, c'est hyper dur à vivre. Ça veut dire ne jamais être dans la même pièce tous les deux ensemble. Ça veut dire que le soir, dès qu'il commence à faire nuit, bah en fait soit on est en groupe, soit on n'est plus ensemble, tu vois. Ça donne énormément de barrières, de contraintes et de cadres. Parce qu'on est humain, on est très amoureux, on a envie de se marier ensemble, donc on sait où ça va nous mener, quoi.
Et il n'y a pas cette crainte, je vais poser des questions débiles, il n'y a pas cette crainte de genre ça ne va pas marcher. Tu sais, moi je me dis toujours, moi je me suis toujours dit avant, alors moi le mariage, c'était pas un objectif pour moi, c'était pas une étape par laquelle je voulais passer, mais avant de me dire ok, j'avance avec lui, où on fait des enfants, on fonde une famille, où on prend un appart, ou je sais pas, ou un chat, ce que tu veux. J'ai besoin de savoir si au lit ça marche, si sexuellement on est compatible, si ça fonctionne en fait. Toi, t'avais jamais cette crainte?
En fait, ça veut dire quoi, ça marche bien? Tu vois, moi je pense que ça renvoie à la question de performance de la société, etc. Non, en fait, je crois que j'ai pas eu de doute, tout simplement. Je pense qu'il faut aussi se faire confiance, et à partir du moment où t'es très amoureux de la personne, que tu vois, en embrassant quelqu'un, tu sais si ça va bien se passer ou pas. Oui, te dire. Je pense que c'est quelqu'un qui a...
Ah ouais, mais moi, je pense pas ça,
ah
tu
ouais.
vois. Moi, j'ai déjà eu des exemples où c'était super dans les préliminaires, on va dire. Mais après, par contre, le sexe, on n'était pas du tout alignés, quoi. Et il faisait des trucs qui me convenaient pas et sûrement vice-versa. Et je me disais, bah, en fait, soit effectivement, tu peux tenter de faire en sorte qu'il y ait une harmonie qui n'est pas là pour l'instant. Toi, ben, il n'y a pas suffisamment d'accroche ou de sentiments ou d'envie de relation pour chercher cette harmonie. Mais il y a quand même des gens avec qui ça fonctionne et d'autres avec qui ça ne fonctionne pas.
Bah, je pense que, oui, effectivement, je pense qu'il y a des gens avec qui ça fonctionne et d'autres avec qui ça ne fonctionne pas. Mais je pense que c'est vraiment une question de communication, une question de feeling. C'est-à-dire que moi, je ne veux pas la même chose aujourd'hui qu'il y a 4 ans, tu vois. Enfin, en fait, c'est aussi la relation sexuelle, elle évolue en fonction du temps, en fonction de nos corps, en fonction de la maternité, de la paternité, tu vois. Enfin, il y a tellement de choses qui évoluent que, en fait, si on se base que sur ça, on change de partenaire tous les 5 ans, tu vois. Et en fait, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de communication. Après, c'est vrai que nous, on est vraiment dans le respect de l'un et de l'autre. C'est-à-dire que, tu vois, par exemple, même dans nos paroles, c'est-à-dire qu'on peut avoir des relations parfois peut-être un peu plus virulentes, mais on va jamais utiliser le mot baise, tu vois. Parce qu'on ne baise pas, tu vois. On se respecte vraiment profondément. Au-delà de ça, moi, j'ai souvent eu des relations, enfin, j'ai eu des relations sexuelles. Et au-delà de ça, moi, je me suis dit, c'est lui envers et contre tout. Peu importe. Faut savoir vraiment que je me suis dit, ça marchera, c'est sûr. Enfin, on trouvera les moyens que ça marche. Enfin, il n'y a pas de... cet homme est extraordinaire, je veux que ça soit mon mari, quoi. C'est tout.
Vous en êtes au moment où vous vous engagez, où tu lui dis que tu veux t'engager et tu lui mets presque une espèce de deadline, en fait. Bon, j'imagine que là, l'histoire démarre sans encombre, sans accroc, tout se passe bien.
Tout se passe très, très bien. Il y a, ouais, c'est vraiment le monde des bisounours, quoi. Tout se passe bien. Après, on chemine ensemble et tout, sauf que vient le Covid. Et donc, qui dit Covid dit plus, enfin, on avait beaucoup plus de mal à pouvoir se retrouver parce qu'on n'habite pas ensemble. Et que moi, j'habite à une demi-heure de chez lui, en voiture. Et donc, c'était quand même très dur. Et donc là, arrive la deadline en juin et il me dit, bah, écoute, Marine, je sais pas quoi te dire, quoi. Je suis pas prêt à te demander en mariage, quoi. Enfin, et ce que j'entends, parce qu'on se voit pas énormément non plus, enfin, on se voit moins, tu vois, avec le Covid, forcément.
Vous avez pas passé le confinement ensemble?
Non, pas du tout. T'es folle. Tu veux qu'on brise nos engagements?
Je sais pas, dans deux maisons différentes, je sais pas, moi, l'un à côté de l'autre.
Non, non, impossible, mais impossible, attends, c'est pas possible. Je sais plus, je dois avoir 21, 22 ans. Oui, non, c'est impossible. Donc, je lui dis, écoute, je te rajoute 2 mois. En août, on prend une décision, sinon moi, j'arrête. Et il me dit, OK. Et tu vois, je sais plus, le 13 août ou le 14 août, un truc comme ça, on part en vacances à Arcachon et il me fait cette demande en mariage. Et en fait, c'est marrant parce que c'était tellement fluide que quand il a posé un genou à terre en me disant, Marine, est-ce que tu veux être ma femme? Je lui ai dit, bah ouais. Tu vois, genre, c'était même pas un beau oui ou quoi. J'étais en mode, bah ouais, enfin... C'est la suite, quoi. Vas-y, on continue, quoi. Enfin, et après, par contre, j'ai été quand même très tiraillée parce que j'explore de plus en plus cette foi qui est très belle, qui se construit. Et pendant notre année de fiançailles, je vois qu'on a quand même des écarts de culture qui sont quand même très fortes. Je me dis, mais comment est-ce qu'on va réussir à dépasser ça dans nos familles? Et je me sens totalement appelée à rentrer au couvent. Et je commence à cheminer avec une sœur. Et je me dis, le seul truc qui ferait que je rentrerai pas, c'est vraiment la maternité. Je sais pas si je suis prête à faire une croix, à être mère spirituelle, mais à faire une croix sur la maternité féconde, tu vois. Donc, on chemine. Et puis vient un peu la dernière étape avant de dire, OK, on va fixer une date de mariage. Et je lui dis, bah, écoute, tu pars à la Sainte-Baume, chez des moines pendant une semaine. Et moi, je pars à Jouques chez des sœurs pendant une semaine pour être une retraite en silence et on se parle pas et à la fin de la semaine tu viens me chercher et on se donne notre réponse si on se marie ou pas. Et là il part et moi toute la semaine j'étais épuisée de ma semaine et donc je fais que dormir, je suis en train de faire mon master 2 donc je fais mon mémoire en même temps, je chemine pas du tout, je laisse les choses se faire et je demande à voir la mère abbesse, les abbayes c'est un peu comme des abeilles tu vois, enfin il y a une reine entre guillemets et des petites abeilles, donc c'est le même format. Donc, je demande à voir la mère abbesse le vendredi pour lui parler. Et donc, je lui parle et je lui dis, bah voilà, je suis là parce que je je suis avec un gars, je lui dis pas son prénom, je lui dis rien, je lui dis pas, je reste vraiment très floue, je lui dis, bah, il vient d'une famille de 8 enfants, son cato, enfin, voilà, c'est un mec hyper profond, je lui parle un peu de Vendrick, je lui dis un peu ce que je te dis. C'est un gars qui a une profondeur d'âme qui est quand même très forte et tout. Et pour le coup, on est dans un milieu cato, elle voit des familles nombreuses passer tout le temps, tu vois, enfin, c'est pas, et là, elle me regarde, elle me dit, est-ce que c'est Vendry beauté? Et je lui dis, mais comment est-ce que vous savez, quoi? Enfin... Et elle me dit, je l'ai rencontré quand il avait 6 ans. Et elle me dit, je m'en rappellerai toute ma vie, cet homme est extrêmement profond dans sa manière d'être. Et elle m'a dit, depuis ses 6 ans, je prie pour lui. Et je dis, non, mais attendez, moi, je veux rentrer chez vous. Je vais, je dis, par contre, moi, je vais être seule, et en fait, je veux rentrer chez vous, et je, mais c'est vrai que la maternité, j'ai envie d'avoir pas mal d'enfants et ça me prend vraiment au trip. Et elle m'a dit, non, mais si c'est Vendry, France, il n'y a pas de question à te poser. Et en fait, c'est comme ça que je me suis dit, ben, en fait, ok, je vais me marier avec lui et je me laisse guider, en fait. Et la providence fait aussi bien les choses. Moi, je crois pas forcément au hasard. Et je me dis, bon, bah, allez, hop, c'est parti, je me marie avec lui.
Donc, quand tu dis que tu crois pas au hasard, Marine, tu crois en quoi?
Je crois en la providence divine. Ce qui est complètement, en fait, il y a Marine, moi, en tant que personne, on est d'accord, hein, et ce que je dissocie énormément avec la psychologue et avec la gestionnaire des patrimoines, hein, mais ça, c'est quand même des choses qui sont très différentes, hein. Là, je te parle de moi en tant que personne, parce que si on est en psychologie, on parle pas du tout des mêmes termes, et je fais pas d'analyse comme ça, hein. La psychologie, c'est quand même une science, hein, là où la foi n'est pas une science. Donc moi, personnellement, je crois la providence et je crois au signe que le bon Dieu nous met entre guillemets sur notre route, et je crois profondément, c'est de mon éducation, hein, de mon parcours de vie, que quand on veut on peut, et quand on se donne les moyens on peut accéder à tout. Ça, c'est quelque chose pour moi qui est indéniable, parce que aussi quand t'analyses un peu mon parcours, depuis toute petite j'ai créé des espèces de schémas, une espèce de moule un peu préconçu, où j'avais pas papa et maman derrière moi, et donc je me suis toujours sorti les doigts des fesses pour pouvoir y arriver dans la vie, tu vois. Et donc je me suis toujours dit, effectivement, mon modèle, c'est moi, mes parents sont divorcés, j'en ai énormément souffert, j'ai pas eu de père dans ma vie, ça a été extrêmement dur à passer outre, j'aurais pu très très mal tourner, la foi m'a sauvée concrètement. Je me suis toujours dit, moi je veux tout l'inverse, je veux être mariée, je veux un homme qui soit là pour moi, mais en même temps je veux être très indépendante, je veux pas dépendre de lui, tu vois. Et je veux des enfants, je veux un travail qui me rapporte aussi beaucoup, parce que j'ai beaucoup de rêves dans ma vie. Je pense que quand t'as pas eu une cuillère d'argent dans la bouche, tu peux tout construire. Enfin, moi, je bosse comme une tarée, mais parce que je sais ce que je veux, tu vois. Et quand j'ai vu Vendry, j'ai peut-être rencontré aussi l'homme qui est quand même complètement, enfin, souvent on me dit, mais Vendry, tu l'idéalises. Et Vendry, il me dit tout le temps, Marine, tu m'idéalises grave, hein. Je suis pas quelqu'un de dingue. Mais Vendry, pour moi, il est là, quoi. Enfin, et ça fout un peu une pression parfois, parce que je me dis, mais est-ce que je serais à sa hauteur, tu vois. Mais j'ai aussi conscience de, j'ai quand même beaucoup d'estime de moi, et j'ai aussi conscience de ce que je vaux et de ce que je suis. Donc par contre, je suis avec cet homme, et je lui ai toujours dit, dans la religion catholique, le catholique, le divorce n'existe pas. Tu es marié pour la vie éternelle. Par contre, je lui ai toujours dit, si demain tu viens, je sais pas, me battre ou quoi, enfin, je dis un exemple basique de notre société. Moi, j'aurais aucun problème pour te quitter, par contre. Même si tu es exceptionnel, même si, voilà. Ça, c'est, j'ai trop d'estime pour moi, pour accepter ce genre de choses.
Si c'était un signe de Dieu, à ton avis, pourquoi il a mis Vendry sur ton chemin à toi?
Déjà, je suis sûre que c'est un signe de Dieu, parce que je suis partie en Israël 2 mois avant, et que je vais demander de me foutre voilà, je l'ai appelé. Donc, ensuite, parce qu'il y a eu cette mère abbesse qui me dit ça, enfin, j'ai eu plein de petits signes par-ci par-là, hein. Et ma foi vient d'un signe. Clairement, moi, j'ai rencontré le Christ, je pourrais en parler une prochaine fois, et c'est une vraie histoire d'amour. Et je l'ai rencontré sur un signe complètement, sort un peu de nulle part. Et donc, si c'est un signe de Dieu, pourquoi est-ce qu'il s'est mis devant moi? Je pense qu'on se met pas avec une psychologue pour rien, et je pense qu'une psychologue ne se met pas avec un type comme ça pour rien non plus. Je pense que Vendry a quelque chose de presque de l'ordre de l'Asperger. L'Asperger, c'est une branche de l'autisme. Je pense pas qu'il soit autiste, mais c'est un gars qui est hyper intelligent, qui va lire un truc, qui va le retenir. Pour te dire, le premier jour de notre voyage de noces, donc on dort ensemble, pour la première fois, une des premières fois.
Et, oui, ça s'est bien passé.
Ça s'est très bien passé.
Joker.
On monte, on est en Grèce, on monte l'ascenseur nous montre au premier étage, au, je sais pas, au 11e étage pour aller prendre notre petit déjeuner. Puis Vendée, il ferme les yeux et puis il touche comme ça. Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu fous? Et il me dit, bah attends, j'apprends le braille. Et là, je me dis, ok, je suis vraiment avec un fou, en fait. C'est un mec qui apprend tout le temps. Mais quand je dis tout le temps, c'est qu'il a une culture de dingos.
Mais c'est marrant parce que quand tu me l'as décrit au début, moi, j'y ai pensé à Asperger. Parce que c'est pas la première fois qu'on me dépeint une personne comme ça et que derrière, il y a des soupçons ou je sais pas comment dire, en tout cas, il y a des hypothèses de cet ordre. Est-ce que Marine, est-ce que tu as envie de lui laisser un message à Vendry?
Je sais pas, je pense qu'il sait tout. Enfin, je pense qu'il sait tout aujourd'hui, demain et après-demain. C'est lui, ça sera lui, quoi.
Vous vivez ensemble, Marine, aujourd'hui?
Mais, bah, bien sûr. Non, on vit ensemble, même si moi, je suis quelqu'un de très solitaire et donc je suis quand même contente qu'il soit marin parce que du coup, il est pas là une bonne partie de l'année. Par contre, tu vois, il y a quand même beaucoup de réajustements parce que il veut une famille nombreuse. Moi, j'en ai. Du coup, on a eu un enfant. Et en fait, en ayant un enfant, bah, je me suis dit, en fait, deux, c'est bien. Donc, il y a quand même énormément. Là, on est au cœur des réajustements parce que je suis comme je suis avec mon parcours, etc. Et moi, en fait, tu vois, me faire des chemins de je sais pas quoi, de Compostelle en sac à dos, treillis, scoutisme, je sais pas quoi, c'est pas mon délire, tu vois. Avoir 8 enfants, c'est pas mon délire, tu vois. Enfin, voilà. Donc, il y a quand même des réajustements. Mais en fait, ce qui est beau dans une relation, et je terminerai sur ça, c'est que, en s'écoutant l'un et l'autre, et en ne pas s'oubliant, ça c'est très important. Parce que, il est ce qu'il est, et moi je suis ce que je suis. Et si on veut avancer ensemble, il faut forcément faire des compromis sur ce qu'on voulait, ou ce qu'on veut, tu vois. Lui, par exemple, son rêve c'est d'avoir 8 enfants, et bah, peut-être que moi j'en veux 2, et bah, peut-être qu'on en aura 3 ou 4. Et mais, en fait, déjà, pour moi, c'est énorme. Mais pour lui, c'est déjà c'est un gros effort, tu vois, par exemple. En fait, dans le quotidien, ça va être, toi, c'est ton truc, bah, moi, c'est mon truc, tu vois. Moi, je suis quelqu'un de très solitaire. Lui, il a besoin de parler. Enfin, non, lui, c'est quelqu'un qui parle très peu, pardon. Mais par contre, le soir, il a besoin d'être avec la personne. Moi, des fois, le soir, j'ai besoin d'être dans ma bulle. Donc, en fait, sur la semaine, on va prendre 2 soirées ensemble de manière très qualitative. Par contre, il y a au moins un soir où tu me fous la paix et je suis avec mon bouquin dans mon canapé et personne ne me parle, tu vois. C'est comme ça que je pense que ça avance et pas s'oublier, ça c'est très important. Si on se plaît à soi-même, si on continue d'être soi-même malgré l'épouse, malgré la mère, malgré toutes les choses qu'on se rajoute à la vie, et bah on peut avancer. Par contre, si on commence à s'oublier, là c'est fini.
Merci d'avoir écouté cet épisode. Je compte sur toi pour aller mettre 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute favorite, notamment Apple Podcasts. Ça prend littéralement 30 secondes et c'est crucial pour soutenir mon travail complètement indépendant. Si tu veux venir à mon micro, tu peux m'écrire sur crush.lepodcast@gmail.com et si tu veux me soutenir financièrement, clique sur le lien Patreon dans le descriptif de cet épisode. Mille merci pour ton écoute et à la semaine prochaine pour un nouveau crush. I take aim and I just can't miss. Ask me why do I feel like this? What can I say? Today's my day. Nothing in the world's gonna get in the way. Everything's gonna be A-OK.